France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Christophe Coin, je suis né à Caen en 1958. Je suis musicien, je joue en particulier le violoncelle, la viole de gambe, entre autres.
Vous parlez de cette période schizophrénique où vous vous retrouvez à Bâle, Christophe Coin, entre Jordi Savall et Mstislav Rostropovitch. Il y avait une autre schizophrénie aussi qui était quand vous étiez à Vienne, entre Navarra et Nicolas Sarnoncourt.
Oui, c'était vraiment deux portes que j'ouvrais.
Comment vous l'avez rencontré à Arnoncourt ?
Alors, il faisait une série de concerts au palais Schwarzenberg à Vienne, qui est un très très beau palais baroque, donc j'allais là écouter l'orchestre, le concertus, dans ce lieu magnifique. Et là, de nouveau, pour moi, c'était la découverte de cette sonorité que j'avais jamais entendue, j'avais entendu des disques, oui, grâce à Jacques Merlet, qui passait les cantates de Bach, déjà, mais...
Sur France Musique.
Sur France Musique, oui. Et j'en débattais avec mes collègues au conservatoire, qui trouvaient ça abominable. Et moi, j'essayais de défendre le mouvement, parce que j'y croyais. Donc, je comprenais qu'on puisse critiquer, mais je comprenais pas qu'on puisse ne pas adhérer. Quand j'étais à Vienne, j'ai connu Nicolas directement par sa fille, avec lequel on a monté un ensemble, un petit ensemble qui s'appelait Récréation. Je jouais la flûte à bec, il y avait un hautbois, David Reichenberg, Johansson Leitner au clavecin et moi à la viole et au violoncelle. Voilà. Je crois que Nicolas nous a fait le cadeau une fois de nous faire travailler d'écouter une répétition. Et ça a été l'occasion pour moi de le rencontrer, de lui demander si je pouvais jouer pour lui, et puis d'aller ensuite à Salzbourg écouter ses cours. Pendant toute une année, il a analysé Idoménée, sur lequel il travaillait, c'était très très intéressant.
Mozart.
Et puis il donnait des cours très ouverts où on jouait ce qu'on voulait, et il commentait, il faisait des critiques, il expliquait un peu le contexte, enfin c'était très intéressant, et c'était surtout un autre point de vue sur la musique ancienne que ce que je pouvais apprendre à Bâle aussi. C'était très personnel, mais très intéressant. Et à Vienne, il y avait son mentor aussi, qui était Monsieur Mertin, un vieux professeur, qui faisait aussi classe ouverte avec une bibliothèque gigantesque où on pouvait trouver Josquin des Prés jusqu'à l'école de Vienne. Et il connaissait tout. Pour lui, il n'y avait pas de différence. Brahms, Bach, tout était bon à prendre. Il adorait les instruments anciens, mais pas seulement. Et c'était vraiment un tel plaisir d'aller chez lui, de déchiffrer des choses, quel que soit l'instrument qui venait. Il trouvait toujours du répertoire à faire et à dire des choses intelligentes et merveilleuses. Et surtout, à nous inculquer la passion de la beauté de chaque répertoire. Et on comprend quelle influence il a pu avoir sur Arnoncourt ou sur Melkous ou des gens comme ça. Et c'est un grand monsieur et je regrette qu'aujourd'hui il n'y ait plus ce genre de classe ou de professeur. On a des professeurs de musique de chambre, mais on n'a plus cette possibilité d'aller cueillir des fruits suivant les saisons, suivant ce qu'on trouve et d'en faire un bon plat.
Thank you. là, quand vous découvrez ce monde-là, est-ce que vous avez le sentiment de reconnaître quelque chose d'essentiel ?
J'ai senti que ça changerait un peu ma vie, oui, sans savoir exactement comment. Après, ça a été les événements, le fait qu'à Vienne, j'ai rencontré aussi, à la suite d'un concert, Christopher Hogood, qui jouait de l'art médiéval en frac dans un groupe de musique ancienne anglais. Et puis, on a commencé à parler après le concert. Et c'est là qu'il m'a invité à venir auditionner et que j'ai enregistré les trisonates de Purcell avec lui, Monica Haggett, etc. Et puis ensuite les concertos de Haydn, de Vivaldi. Enfin, ça a été des opportunités comme ça qui sont nées à Vienne aussi.
Arnoncourt, il était violoncelliste.
Il était violoncelliste. J'ai d'ailleurs une très jolie anecdote. Quand on avait ce groupe Récréation, je ne sais pas si j'étais malade ou j'étais coincé à Paris, enfin, je ne pouvais pas venir faire un concert. Et là, le journal local écrivait « Christophe Coin, violoncelliste, sera remplacé par Nicolas Arnoncourt, qui joue aussi très bien ». Je ne vous trouverai pas les mots en allemand exactement, mais c'était très mignon.
Et de lui, vous avez appris aussi ?
D'abord, il m'a prêté ses instruments. Il avait un très beau violoncelle moderne, fin 19e, fait à Budapest, qui était un très bel instrument, et son castagnéri baroque aussi. Et puis, quand j'ai joué à côté de lui, les Brandebourgeois, j'ai beaucoup appris dans son jeu, qui était très différent de ce que je connaissais. Je savais pas ce que c'était le violoncelle baroque. Pour moi, c'était pas encore inventé, ça. Je connaissais la viole de gambe et je connaissais le violoncelle. Le violoncelle baroque, j'arrivais pas encore à... Et je suis content d'ailleurs d'avoir abordé la musique ancienne par la viole et pas par le même instrument. Et ce détour m'a permis d'avoir moins d'a priori et peut-être de moins mélanger les choses aussi.
Nicolas Arnoncourt, c'est quand même des lectures complètement décapantes de Bach, de Mozart, de Bruckner. Je me demandais quel était son rapport à l'authenticité. Enfin, peut-être c'est une utopie, mais on a le sentiment qu'il y avait plus de quête vers l'essentiel de la musique que vers peut-être la recherche d'une vérité. Est-ce que c'est un peu ça le chemin ?
À partir du moment où vous analysez la partition, où vous trouvez tous les tenants et les aboutissants qui fait que le compositeur travaille son compost, c'est le cas de le dire, pour donner l'humus musical qui va faire naître l'œuvre. Lui, il n'a pas peur de remuer justement ces feuilles mortes et les vers de terre qui font tout ça. Et c'est ça qui fait que sa lecture est riche. L'authenticité, pour lui, on n'en parle même pas, c'est un point de vue, mais ce n'est pas un argument. Il avait d'autres arguments beaucoup plus fort et plus logique et plus vrai que ça, ce qui fait que son interprétation est quand même toujours actuelle. Elle est peut-être pas authentique, mais elle est actuelle et valable. Alors on n'est pas toujours d'accord avec ses arguments, mais quand on est dans l'orchestre et qu'on est sous sa direction dans les répétitions, on a quand même envie de faire ce qu'il veut, parce que on se dit, même si c'est pas mon goût, j'y crois, quoi. Je suis prêt à investir mon énergie pour le servir. Donc c'est surtout en répétition que Arnoncourt m'a fasciné, plus qu'en concert.
Entschuldigung, das gab nicht. Wir müssen genauso einsetzen, die Celli und Bässe, wie vorher die Bläser. Und können Sie so ein bisschen eine oberösterreichische Melancholie hineinbringen? Wenn Sie sagen, dun, 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 dun. Es ist schnell, aber ja, gut, aber das fährt ja dauernd vorbei in der Autobahn. Ja, genau. Das ist es.
Quand on est dans ces années 80, là, à peu près, c'est aussi des années pour cette musique ancienne qui sont assez essentielles avec naissance de grands groupes de musique ancienne. Je pense par exemple aussi aux Arts Florissants avec lesquels vous avez évidemment collaboré. Au début, en tout cas dans ces années-là, on a quand même le sentiment que les concertos d'Elgar, Tchaïkovski, Dvorak s'éloignent un peu. Vous faites quand même plutôt le choix de la musique ancienne.
Oui, oui, absolument. Ouais. Disons qu'elle l'a fait pour moi. Et puis on va là où il y a du travail, là où on vous appelle, etc. Donc c'est presque un peu par, je dirais pas par paresse, mais parce que c'était quand même aussi un choix de goût. Mais
les écoles sont sans doute quand même très différentes. Quand on est avec Christopher Hogwood, ça n'a rien à voir. Un moment qu'on peut partager avec Gustav Leonhardt ou avec William Christie, avec Jordi Savall, ce sont à chaque fois des cultures qui sont très différentes. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là, qui sont une espèce d'année d'apprentissage en accéléré? Qu'est-ce que vous retenez des uns des autres et qui vous porterait encore aujourd'hui et qui définirait ce que vous êtes devenu?
Cette flexibilité de pouvoir profiter des belles choses de chacun, des qualités de chacun, je trouve ça formidable. Quoi. Si je m'est arrivé de jouer quelques fois en duo avec Ton Kopman, son continuo extrêmement riche, inventif, élaboré, avec plein d'ornements partout, et c'est rigolo, on se sent porté. Et on se dit, voilà, c'est merveilleux de jouer de la musique italienne comme ça. Après, vous jouez avec Gustav Leonhardt, où lui, il travaille avec la gomme plutôt qu'avec le crayon. C'est-à-dire que moins il en fait, plus...
Less is more.
Plus le continuo est beau. Mais je dois dire que le mouvement lent de la troisième sonate de Bach, la jouer avec lui, c'était une expérience unique. On a une sensation du temps qui n'est plus du tout la même que ce qu'on connaît jusqu'à présent. Donc moi j'apprécie les deux. Je prends de toute façon comme un buvard des bonnes choses de tout ça, et c'est ça qui forge un musicien. C'est travailler, d'avoir eu la chance de travailler avec ces gens-là ou avec Chandor Weg, c'est une chance unique.
Et Chandor Weg, là c'est, j'imagine aussi le quatuor.
Oui, mais pas seulement. J'ai eu l'occasion de jouer en musique de chambre avec lui à Prochakov, dans ses stages qu'il faisait de musique de chambre ouverte.
Oui, en quoi cette personnalité-là était fascinante?
C'est quelqu'un qui parle avec l'instrument, donc quoi qu'il fasse, vous aurez toujours un message, vous ressentirez toujours quelque chose de... l'intensité musicale et l'élégance et surtout le vécu. Je pense que ces gens qui ont vécu aussi des années difficiles, la guerre, etc., ont forcément un bagage humain qui est plus fort, qui est inimitable, qu'ils ont emporté avec eux, c'est sûr. Donc, ils nous l'ont un tout petit peu transmis. Et de ce bagage, on va le transposer un peu en musique, en sonorité. C'est un peu ça. Il y a une grosse déperdition d'une génération à l'autre, il faut dire. Mais bon, ce qui reste, c'est déjà pas mal.
Il a été proche d'un des membres du Quatuor Mosaïque.
Oui, Eric Hubbard, notre premier violon, a été le dernier second violon du Quatuor Weg. Donc il y a une passation là qui
C'est ça, il y a une lignée en fait.
Qui est importante, oui.
Musique, les grands entretiens de Christophe Coin.
Alors ce quatuor mosaïque, c'est un ensemble que vous allez fonder avec trois membres du Concertus Musicus Wien, trois Viennois.
Trois Autrichiens.
Trois Autrichiens.
Il n'y a que Eric qui est vraiment viennois. Anita est du Tyrol de l'Est.
Anita Metterer.
Et Andrea Bischoff est plutôt du Vorarlberg, donc vers la Suisse, vers l'Ouest. Mais ils étudiaient à Vienne et je les ai tous connus à Vienne, évidemment.
Qu'est-ce que vous vouliez faire avec Mosaïque que vous ne pouviez pas faire ailleurs ou que... Et pourquoi Mosaïque ?
C'était pendant une tournée ou un enregistrement des Brandebourgeois à Ulm avec Arnoncourt pour la télévision. Et donc on avait pas mal de temps libre. Et le soir, on a décidé de déchiffrer l'équateur et puis de prendre ça un petit peu plus au sérieux. Et puis l'idée est venue après d'agrandir au chef de pupitre, que peut-être le quatuor, un travail d'orchestre de chambre, voilà, avec des gens d'horizons très différents, alors plus parisiens, mais pas seulement, mais surtout des gens qui venaient plus des grands orchestres parisiens, ou bien du jazz, ou bien quelques-uns qui étaient déjà un peu plus spécialisés en musique ancienne. Mais c'était très très disparate, d'où le nom de Mosaïque d'ailleurs, qui n'était pas choisi pour le quatuor, mais qui était choisi pour l'ensemble. Parce que pour moi, le travail d'une musique, c'est un petit peu comme une mosaïque, c'est-à-dire que c'est une agglomération de petits détails qui font un tout, qui doit être beau et attirant à partir du moment où on le prend à la bonne distance. Et c'est un peu ça, le travail de la musique aussi. Et donc les instrumentistes se réunissaient de temps en temps, par période, et on a eu quand même plusieurs belles saisons au Théâtre des Champs-Élysées, par exemple, où on a fait des symphonies de Haydn, de Purcell, enfin toutes sortes de choses, mais surtout de la musique classique viennoise, Haydn-Mozart. Après, les événements ont fait que l'orchestre a fondu par un manque de d'argent, surtout, et donc est resté, comme vous dites, le quatuor, donc... qui lui a perduré, puisque je crois qu'on est le plus vieux quatuor en Europe dans l'état d'origine, puisqu'on a toujours les mêmes quatre membres qui sont là, alors que beaucoup de quatuors changent au moins une fois dans leur carrière. Ouais. C'est grâce au fait qu'on fait du quatuor, on n'est pas un quatuor, c'est-à-dire on ne travaille pas tous les jours, on se voit par période, donc on se supporte plus longtemps dans ces cas-là.
C'est le secret de la longévité, de ne pas être dans cette ascèse comme ça, quotidienne, qui est un vrai choix de vie.
Oui, c'est presque vie monastique.
Avec ce quatuor mosaïque, vous jouez de Haydn à Webern.
Webern moins, mais là on va rejouer le premier de Bartók bientôt.
Bartók, ouais.
Disons que la limite des cordes boyaux, c'est pour nous, c'est la Première Guerre mondiale. Enfin, après ça, Shostakovich, tout ça, ça pose plus de questions. C'est pas pour nous, il y a des gens qui font ça très très... très très bien, magnifiquement, mais c'est vrai qu'on aime bien enrichir notre répertoire de choses plus tardives et aussi moins connues. On déchiffre des répertoires qui sortent un peu des sentiers battus.
Oui, ça c'est une mission du musicien, comme de jouer la musique de son temps, d'aller défricher aussi.
Je pense que c'est pour moi, parce que je ne fais pas de musique contemporaine, ou très peu, je me contente de jouer les pièces qu'on me dédie, qu'on m'écrit. Ça, je le fais parce que ça me paraît quand même un minimum. Mais sinon, je fais trop peu de musique contemporaine, donc je me donne une bonne conscience en redécouvrant d'autres répertoires qui ne sont pas encore reconnus.
Vous allez découvrir les Félicien David, les Hyacinthe Jadin, des œuvres comme ça qu'on joue très peu.
Qu'on jouait très peu, qu'on joue un peu plus, que peut-être grâce à nous, mais on découvre surtout quelquefois vraiment des perles qui sont oubliées.
Quand on se connaît si bien, on se donne aussi la possibilité de se mettre en danger, de prendre plus de risques, musicalement.
Oui, alors ça dépend du partenaire.
Je vous parle du quatuor.
Oui, au sein du quatuor, on se connaît maintenant suffisamment pour déjà répéter moins, ou disons arriver un peu plus vite à un niveau de vocabulaire déjà acquis. Mais sinon, dans la musique de chambre en général, il y a des musiciens, des partenaires avec lesquels vous pouvez... Ne rien marquer, ce sera de toute façon, ça sert à rien parce que ça changera à chaque fois, comme avec mon complice Patrick Cohen avec qui j'ai travaillé. Ou
au piano.
Au piano forte, mais il y a aussi des gens qui sont plus systématiques, plus sérieux, avec lesquels on peut faire de la très bonne musique.
Vous êtes un fidèle, vous ?
Oui, je peux dire comme ça, oui. Dans la mesure du possible, je tiens à l'être en tout cas.
Vous aimez aussi que les choses se polissent avec le temps. Vous croyez à ce temps qui passe, qui nourrit.
Oui, c'est bizarre, c'est étrange. Dans le quatuor, on remarque par exemple que certaines choses, on les joue plus vite. Ou d'autres fois, on se dit, tiens, c'est bizarre, on joue plus lentement. Parce qu'au contraire, peut-être qu'on est plus lent tout simplement avec l'âge. Ou techniquement, je ne sais pas. Mais on a un sentiment du temps qui varie. Suivant les âges et suivant les périodes. Ça, je crois beaucoup que le temps est quelque chose de aléatoire. Et donc, même au niveau des tempi, ça ne veut pas dire grand-chose de se référer à des tempi métronomiques de 1820, parce qu'en 1820, on n'avait pas la même notion du temps qu'aujourd'hui. La société était différente, on circulait à cheval, rien que ça... Ça donne une vision du temps. Il n'y avait pas le bruit qu'on a aujourd'hui dans les oreilles. La notion de rythme personnel, rythme cardiaque peut-être aussi, varie suivant suivant les époques. En tout cas, la perception qu'on en fait, peut-être qu'il y a un temps mathématique qui reste le même. Mais par contre, l'appréhension qu'on en a varie. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile de prendre ça comme un argument véridique.
Quand on voit un film comme Tous les matins du monde, c'est frappant, ce rapport au temps. Il y a quelque chose de dilaté. On a l'impression que les errances étaient davantage possibles qu'aujourd'hui. On pouvait passer du temps à réfléchir, à se poser des questions. Est-ce que le fait de jouer ce répertoire-là aujourd'hui, vous trouvez ça compliqué ?
Par moments, je sens que c'est un répertoire qui date, qui n'est plus forcément utile aujourd'hui. Oui, ça m'arrive de plus en plus.
Utile ou compris ?
Je dirais même utile, oui. Peut-être plus nécessaire. Et puis, on n'a plus les armes, on n'a plus les ustensiles suffisants pour le servir assez bien, je crois.
Les ustensiles, c'est quoi ? Ce sont les lieux ?
Oui, les lieux, de jouer ces musiques dans des salles trop grande, par exemple, forcément, change aussi la notion de dynamique, de comment on va servir, on va projeter cette musique-là. Automatiquement, il y a une transformation, qu'on le veuille ou non. On n'entendra jamais un opéra seria tel qu'il a été donné, puisqu'il n'y a plus de castrat. Donc, c'est complètement idiot de se dire on entend ça de manière authentique. Ce n'est pas vrai, c'est pas possible. Et aucun contre-ténor, si génial soit-il, falsettiste, ne remplacera un castrat. Et c'est physiquement impossible. Donc, il faut se faire une raison et puis se dire voilà, on est arrivé jusqu'à ce point-là, mais on ne peut peux aller plus loin.
La voix de Max Emmanuel Cencik dans un extrait du Fornace de Vivaldi pour terminer ce quatrième épisode des Grands Entretiens avec Christophe Coin. Équipe de réalisation Gilles Blanchard, Yves Lehors, Eric Villenfin et Marie-Christine Ferdinand. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.